Génération Prestart. Génération Prestart. Try again. Try again.
Bonsoir et bienvenue dans la deuxième heure de Génération Prestart. Try again, l'heure un peu plus rétro. Aujourd'hui, Nelly va nous décortiquer Secret of Evermore. Bonsoir Nelly.
Bonsoir.
Bonsoir mes autres amis qui sont dans le studio, Ellie, Lionel, toujours là.
Coucou les loulous,
bonsoir à tous.
Alors au programme de la soirée, si je ne m'abuse, Ellie va nous parler des familiers.
Voilà, les compagnons.
Voilà, c'est ça. Nelly de Secret of Evermore et Lionel des voyages temporels.
Ouais, tout à fait.
Ok, bah, c'est un problème qui moi me plaît en tout cas.
Chargé.
J'espère que vous nous rejoignez sur le chat si vous avez envie, parce que nous on y est souvent, même déjà dès la première heure. Enfin, quand on peut, quoi, quand on peut, quand on est là, quand on est disponible. On aime bien être avec vous sur le chat, laisser des petites dédicaces. Qu'on est à notre forum, www.forumtryagain.com, avec nos podcasts. Que cette semaine, le podcast était Turtle in Time, un jeu que j'avais adoré.
Et les musiques aussi, hein. T'as overkiffé.
Ah, les musiques, pour moi, c'est une référence absolue.
Enfin, elle déménage.
Elle déménage bien. Et en parlant de musique, ce soir, on va s'écouter des musiques qui ont été toutes composées par Jeremy Soul.
Exactement.
Un américain.
Oui. Alors, des fois, on écoutera la version du jeu. Et des fois, ce sera des versions réorchestrées. J'ai plus le détail. Hein. Je le remettrai peut-être sur le forum. Mais donc, des fois, c'est réorchestré carrément.
D'accord. Et ben, on va commencer par s'écouter une musique avec le thème principal, le thème du menu. Et la première musique s'appelle Many Years Ago, si je ne m'abuse. C'est ça?
C'est ça.
Ok, ben, tout de suite.
M57 Radio.
Try again.
Alors on en parlait en antenne, en fait Nelly me rappelait que cette musique c'était une des musiques qu'on a dans la cinématique de début du jeu, en fait.
Ouais, dont on parlera tout à l'heure, voilà. Donc retenez-la bien.
Ellie, oui. que nous as-tu préparé ce soir?
Alors je vous ai préparé un petit sujet dans ce Insert Coin sur les familiers, autrement dit les compagnons dans le jeu vidéo.
Ouais.
Alors définition d'un familier, qu'est-ce que c'est? C'est une personne qui fréquente habituellement un lieu ou une autre personne. Donc souvent on va parler de nos amis à poil et à plumes. Donc les animaux, mais pas exclusivement, ça peut être aussi des humains éventuellement.
Comme Robin avec Batman.
Ouais, c'est discutable, mais...
Ouais, enfin quand même, moi, le terme familier, généralement dans le monde du jeu vidéo, c'est vrai que ça désigne souvent quand même un animal, une mascotte quoi.
Ouais.
Principalement quand même.
Excusez-moi du terme, mais moi j'aurais presque dit un bâtard. Presque.
Ouais.
C'est pas faux. Alors des familiers, il en existe de plusieurs sortes. Alors il y en a qui sont jouables, qui sont switchables. Par exemple, dans Donkey Kong, on peut switcher entre deux personnages. C'est pas vraiment un familier, je trouve.
Échanger entre deux personnages.
Non, c'est pas un familier pour moi, du tout.
C'est un personnage jouable.
Ouais. Mais remarque, quand il t'accompagne de façon... Bon, il influe pas non plus dans le jeu. Généralement, un familier, c'est plutôt quelqu'un qui t'accompagne et qui t'aide, qui a une influence. C'est un deuxième personnage qui te suit. Bon, il influence pas forcément dans Donkey Kong. Ça peut être donc des aides, ça peut être aussi des transports des fois. C'est pas non plus vraiment des familiers, c'est des transports. Alors, d'où est né le terme de familier ? C'est généralement dans les MMORPG comme World of Warcraft ou Guild Wars où t'as un animal de compagnie qui va t'aider, notamment dans les combats. Donc tu vas fighter un gars et lui à côté il mettra des coups en plus. Voilà.
Ouais, selon certaines classes, genre les chasseurs ou les choses comme ça, enfin des qui sont souvent accompagnés d'un chien ou après des fois d'un tigre ou des trucs comme ça, ouais. Des animaux dangereux.
Les chiens, c'est le meilleur ami de l'homme, on dit souvent. Alors le chien revient assez régulièrement comme familier dans les jeux vidéo. On le voit dans Dead to Right.
Un jeu Namco, c'est un bon jeu. Ça.
Ouais. Alors là, le policier est accompagné d'un chien et peut, avec une simple pression sur la manette, lui ordonner d'attaquer. Alors je crois qu'ils ont ressorti une version beaucoup plus récente qui est super violente, c'est un 18+, où le chien il va carrément démembrer limite les ennemis, il se jette dessus de façon très sauvage.
Bah quand tu regardes la cinématique d'introduction du Detroit classique, le chien il est déjà
Il est déjà bien méchant.
Ouais. C'est pas gentil.
Le suivant, il est encore plus stéroïdé.
C'est Dead to Right Retribution sur Xbox 360.
Ouais, ouais.
Oui, c'est sorti en avril 2010.
Alors, dans Shadow Dancer, on a également un compagnon. On est un ninja, donc c'est les shinobi classiques. Mais en plus, on a un chien. Alors, on peut lui demander d'attaquer. Selon 6, prend un coup. Il va redevenir, au bout d'un moment, il va redevenir un petit chiot non agressif.
C'est drôle ça.
Ouais. Et t'accompagne. Donc bien sûr, on va traiter tout à l'heure de Secret of Evermore en détail. Donc là, accompagné, devinez de quel animal ?
Grippin.
Je veux pas te
Martin a raison. Donc on dit pas plus.
Voilà. Un animal à poil.
Il y a pas toujours.
Alors dans King of Fighters 99.
Qu'est-ce que tu dois chercher là encore ?
Alors, c'est pas vraiment un familier puisque c'est un humain qui accompagne quand tu joues avec Cheng Kogan et Choi Boons. C'est le gros costaud avec le boulet, le chauve avec la barbe.
Ouais, je vois qui c'est.
Et qui accompagne d'un petit, un espèce de Freddy, un gars avec un chapeau et des griffes, là, un petit sournois. Quand tu fais genre la manipulation habituelle pour un Dragon Punch, avant bas diagonale et le point, ben c'est le petit qui va venir courir sur l'ennemi et foutre des coups de griffes en Dragon Punch si tu veux. Donc voilà, tu joues avec l'un, tu peux faire des coups spéciaux pour faire appeler l'autre. C'est assez sympathique. Je crois que dans le même jeu, il y en a une qui se fait aider à part son aigle pour certaines attaques. Et c'est intéressant dans le même genre. Alors dans Mario World, est-ce que le Yoshi, est-ce qu'on peut considérer ça comme un familier ? Pas vraiment.
Non.
Je pense pas. C'est une aide, mais en fait on le trouve, on l'a pas systématiquement. Par contre, dans Yoshi Island, on a un bébé qui est avec nous.
Parce que c'est Mario qui est le familier.
Ouais, c'est ça.
Ouais, le familier de Yoshi, comme ça, ça inverse un petit peu les rôles.
Ouais, tout est relatif, quoi. C'est Yoshi la monture, donc.
Ouais. C'est Yoshi qui.
Oui, mais c'est lui qui fait l'aventure, quoi.
Quand tu te fais toucher, tu dois récupérer le bébé Mario dans un temps limité. T'as 10 secondes, je crois, et donc
il est dans sa bulle. Et la bulle, le temps que t'as, c'est le nombre d'étoiles que t'as collectées.
Sinon, il se fait kidnapper.
Ouais. Il hurle. Ouais. C'est affreux pour le rattraper.
Dans Pokémon, on est accompagné des Pokémon.
Ah bon ?
Ouais. Dans Banjo et Kazooie, c'est là non plus pas vraiment un familier, puisque t'incarnes Banjo et tu peux te servir des pattes de Kazooie, l'inverser, lancer des œufs.
Plus que des pattes, hein, de quasiment tout le corps de Kazooie, sauf même ses ailes, tout le corps de Kazooie, tu peux t'en servir. Hein.
Ouais, voilà. Donc là, pareil, c'est tu utilises l'un ou l'autre. Mais
c'est quand même Banjo le héros, quand même.
Plutôt.
Donc effectivement, ça peut être considéré comme un familier.
Ouais, disons que c'est un binôme, quoi. Ils sont indissociables, donc après... Enfin, tout du moins dans Banjo-Kazooie, ils sont indissociables. Bon, ça sera le sujet
d'une autre émission.
Ouais.
Mais disons tout de suite, ce sera le sujet d'émission la semaine prochaine. Voilà,
comme ça,
c'est dit.
Non, il y a dans Zelda 3, tu peux avoir une abeille. Alors ça, c'est un bon familier, parce que l'abeille, tu peux la mettre dans ton...
Bocal,
merci. Et tu la captures, tu la mets dans le bocal. Et quand il y a un ennemi qui t'embête, tu peux la libérer. Elle va te protéger, cette fois, elle t'attaque pas. Elle est avec toi. Tu l'as apprivoisé, ouais, elle tue l'ennemi. Elle va le piquer jusqu'à qu'il meure.
Waouh, ouais, c'est vrai que c'est sympa.
Également les classiques faits pour te rendre de l'énergie. Hein.
Moi je pense à un autre familier, mais que tu as un jeu que tu n'as sûrement pas fait. Je pense au chien de Shadow dans Final Fantasy VI.
Non, effectivement, j'ai pas fait.
Et je sais plus comment il s'appelle ce chien. Et en fait, il t'aide à plusieurs fois. Il vient faire, il vient un peu comme un striker, donner des fois des coups pour te sauver ou des trucs comme ça. Et là, c'est un vrai familier qui a un intérêt dans le scénario même.
Il y a du mordant. Donc,
il y a le chien de Resident Evil 4 aussi qu'on peut sauver en cours de partie et le loup. Chien loup, je sais pas.
Ouais, il s'est pris la patte dans un piège et tu viens ouvrir et plus tard il t'aide contre un boss. Effectivement, très bien, très bien.
Et dans Naruto, y a pas un personnage aussi avec qui a son petit chien dans sa poche et qui
t'attaque? Kamaru, le chien, et ouais, je me rappelle plus du personnage. Ouais, effectivement, il a son chien dans les premières parties, il est dans sa poche, et après, il est un peu trop gros pour
en fait, on en connaît
poche.
Tous des jeux avec des familiers.
Mais ça, il y en a plein. Hein. Alors, un jeu qui me tient particulièrement à cœur, vous le savez, Shadow of the Colossus. Il y a le cheval qui s'appelle Arrow. Alors, on l'appelle Arrow! Arrow! Plus il est loin, plus il gueule. Et s'il est vraiment très loin, il siffle. Et le cheval, il vient et il donne un coup de main. Mais là, c'est plus la monture.
Ça t'éclate.
Oui, c'était juste pour parler de Shadow of the Colossus.
Tu sais, c'est ça, en fait.
C'était son challenge. Personne n'a réussi à pas entrer again, tu vois. Ouais. On a tous des challenges dans la
dans Sims Animaux de Compagnie, on a des familiers, alors.
Challenge.
Moi aussi, j'ai mon challenge.
Alors, dans The Real Ghostbusters sur CPC, parce qu'il va toujours parler un petit peu de l'Amstrad, hein, il y a Bouftou qui peut t'accompagner en bonus et après, il te protège.
C'est voilà. Marrant, ça. Bon, en attendant, on va s'écouter la musique d'introduction, suivie du thème des mini-boss, et après, ce sera la parole à Nelly. En attendant, envoyez-nous des petites dédicaces sur le site de M57, voilà, parce que c'est bien aussi.
M57 Radio, première
radio numérique de Lorraine.
Première radio numérique de Lorraine.
De retour dans Try Again pour que Nelly nous parle de Secret of Evermore.
Exactement. Moi, j'ai décidé de parler un petit peu de ce jeu parce que c'est un des premiers jeux que j'ai repris en solo et que j'ai fini en solo, donc je suis assez fière.
Félicitations.
Et donc, il y a une part d'émotivité dans ce jeu qui me touche.
Fierté,
voilà, de fierté qui me touche. Donc, Secret of Evermore sur SNES, c'est un RPG, donc c'est-à-dire un jeu de rôle qui incorpore des aspects de jeu d'action. Il est sorti le 18 septembre 95 aux US et quelques mois plus tard, comme d'habitude, hein, le 22 février 96 chez nous en Europe. Donc le jeu, il commence en 1965 avec une musique que vous avez entendue tout à l'heure, très sérieuse, un peu angoissante même. Les images sont en noir et blanc, comme dans un vieux film, pour nous faire comprendre que ce qui se passe là et ce qu'on voit là, c'est dans un passé, et qu'on va pas jouer dans cette époque-là, après, plus tard. On est en France, à Pontoise, dans la version européenne, puisque dans la version américaine, on est à Pomdeck. Je sais pas si ça se prononce comme ça, mais... Donc, on a eu cette petite différence-là avec les Américains, que le jeu, pour nous, se passe en France. Alors, si vous cherchez Pontoise sur Internet, ça ressemble pas aux Pontoises du jeu, mais c'est pas grave, cocorico quand même, le jeu se passe en France.
Ouais, pour la traduction, c'est pas mal. Enfin, je veux dire, ça va, ils auraient pu trouver pire.
Oui, hein.
Mais je pense que chez les Américains, tout comme chez les Japonais, les Français sont très populaires.
Voilà. Donc on voit dans ce Pontoise des années 1965, on voit des enfants qui jouent aux billes, d'autres qui sortent d'un cinéma version ancienne, pas les grands cinémas qu'on a aujourd'hui. Il y a même un barbier. Et puis surtout, il y a un vieux manoir énorme, glauque, avec des grandes statues humaines qui donnent un style bizarre à ce manoir. Et puis on nous dit juste une chose, il y a juste une chose qui s'affiche à l'écran, une expérience est en train de finir. Et tout d'un coup, un éclair lumineux, tel une explosion, qui nous fait en gros comprendre que l'expérience c'est fini, mais pas forcément comme on le voulait. Et puis, flash, on revient à notre époque, 30 ans plus tard, on se retrouve avec les belles couleurs, bien colorées, le Pontoise, à peine plus moderne par contre, et puis on voit un jeune homme avec son chien sortir du ciné, et son chien, après s'être gratté avec son poil, voit un chat et se met évidemment à poursuivre le chat. Son chien mériterait quelques cours de dressage, soit dit en passant, mais enfin bon, il nous sera très utile par la suite, on le verra. Et donc le jeune homme n'a qu'une chose à faire, c'est lui courir après pour le rattraper, et devinez où il va, le chien.
Dans la maison, chercher des chiens.
Dans le manoir.
Ah non, pardon.
Le chien perd la trace du chat, court dans le manoir, et le jeune homme n'a qu'une chose à faire, c'est lui courir après dans le manoir et pénétrer dans ce manoir abandonné. Et dans lequel, donc 30 ans plus tard, il s'était passé quelque chose qui avait eu l'air de mal tourner. 30 ans avant, s'était passé quelque chose qui avait l'air d'avoir mal tourné. Donc le chien est entré, suivi de son maître, et ils arrivent dans une pièce un peu bizarre, avec une espèce de machine. Le jeune homme se rend pas compte que c'est une machine, il voit des câbles, et le chien ne trouve qu'une seule bonne idée, c'est de commencer à mâchouiller les câbles, et arrive ce qui devait arriver, la machine se met en route, et cette machine est une sorte de téléporteur qui entraîne nos deux complices dans un monde autre que le leur.
Perpétua.
Ils ne le savent pas encore. Donc ils arrivent dans ce monde bizarre, ils sont accueillis par un homme très bizarre, avec une tête un peu de gnome, très avachi, etc. Et puis évidemment, pour l'instant, ils n'ont qu'une idée en tête, c'est savoir où ils sont, donc Perpétua, et savoir comment rentrer chez eux. Et ce drôle de bonhomme leur indique un chemin, leur disant c'est par là que vous devez aller pour rentrer chez eux. Et on se rend évidemment vite compte que non, c'est pas du tout le bon chemin, mais bon, ils vont quand même. On va quand même y arriver si on est bon joueur, hein, quand même. Mais le gnome veut en fait les envoyer dans un piège. Et donc ils arrivent dans le monde de Perpétua, où ils vont découvrir, où on va découvrir tout au long de nos péripéties l'histoire de ce qui s'est passé dans le manoir. Le héros va rencontrer des personnages qui vont expliquer un petit peu cette histoire. Et un des premiers personnages qu'on rencontre, c'est Isabelle Rouflaquette, alias Regard de Braise. Si vous voulez savoir pourquoi elle s'appelle Regard de Braise,
parce que c'est une chouette.
Vous jouez au jeu, vous comprendrez très vite. Et donc elle lui explique, elle et puis les autres personnages, on lui explique petit à petit qu'en fait ils étaient quatre personnages, dont trois très grands fans d'histoire. Elle était fan de la préhistoire. Le deuxième personnage, Alex Orbusier, était lui très fan de l'Antiquité. Et le troisième personnage, c'est la grosse Anémone, qui était très fan de Moyen-Âge. Et donc on comprend au fur et à mesure du jeu qu'avec le professeur Rouflaquette, donc le quatrième personnage, ils ont essayé de recréer un autre monde, le monde de Perpétua, et que dans ce monde, chacun des trois personnages ont pu se créer une ville à l'image de l'époque qu'ils aimaient.
J'aurais même dit quatre, parce que même le professeur en fait partie.
Voilà, même le professeur à la fin.
Avec Métropolis. Voilà.
Ah, t'es là, déjà.
Mais
t'as raison.
Ah oui,
et donc, Et donc Isabelle Rouflaquette, alias Regard de Braise, a fait le monde par exemple de Préhistoria, qui est donc basé sur la période de la préhistoire. Anémone, elle s'est carrément glorifiée reine de son monde, moyenâgeux, etc. Donc puis leur, malheureusement leur expérience a mal tourné à cause, nous dit-on, du majordome du professeur Rouflaquette, qui n'est autre qu'un robot qui a pris un peu le pouvoir, qui a fait foirer leur expérience, et ils se sont retrouvés coincés dans leur monde. Et le personnage, notre personnage, est aussi, lui aussi, coincé dans ces mondes-là.
Par contre, le majordome, James, tu n'apprends que tard dans le jeu que c'est lui qui a fait foirer l'expérience. Ouais. C'est un gros spoiler, hein, ça, t'as au moins passé 20 heures de jeu.
Je sais, mais d'un autre côté, si t'en parles pas, tu sais pas pourquoi ils sont coincés là, tu sais pas qui tu combats. Donc c'est quand même intéressant à savoir qu'il y a quelqu'un à combattre quand même.
Mais c'est un gros spoiler.
Oui, le but c'est de sortir de ce monde et de retrouver le nôtre, mais évidemment, il y a un gros boss, un gros méchant à tuer. Et donc le héros va devoir traverser ces époques, enfin ces époques, ces mondes inspirés d'époques, pour rentrer chez lui. Et au fur et à mesure, donc on voit ce scénario qui est vraiment... Enfin, il est vraiment travaillé, quoi, le scénario. Il est vraiment intéressant, je trouve. Tourné vers la science-fiction. Enfin, moi, j'ai trouvé le scénario vraiment très intéressant. Et on va se déplacer librement dans ces mondes hostiles. On va traverser des jungles, des déserts, des marécages, etc. En croisant, évidemment, des bêtes sauvages, des ennemis que l'on va devoir tuer. Et... comme tout bon RPG du nom, bah évidemment, plus on va taper, plus on va attaquer, plus on va faire monter son level, prendre de l'expérience. Et pour cela, on va avoir plusieurs façons de tuer les ennemis. On va évidemment d'abord avoir des armes. Donc il y a quatre sortes d'armes dans le jeu. Il y a le style épée, il y a le style lance où on va taper un tout petit peu plus loin. Il y a le style hache qui va nous permettre de casser certains rochers qui bloquent notre passage. Et puis il va y avoir les bazookas avec des munitions qui sont limitées.
Bon, pour ça faut encore arriver à changer d'arme.
Oui, tout à fait. Le menu est un peu particulier. Donc j'ai repris le jeu il n'y a pas si longtemps pour retravailler l'émission, et évidemment je ne l'ai pas repris du début jusqu'à la fin. J'ai voulu voir les différents passages où j'avais sauvegardé, et du coup j'ai eu beaucoup de mal à m'y retrouver dans le menu. Donc c'est un menu circulaire, sauf que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs cercles, et que pour passer d'un cercle à un autre, il faut faire haut et bas une fois qu'on est dans le menu. Donc il va y avoir le cercle des armes, le cercle des équipements, le cercle des magies, et si on n'a pas le réflexe de faire haut et bas, on ne retrouve plus ses armes, on ne retrouve plus ses magies.
C'est comme dans Secret of Mana, en gros.
Voilà, c'est le même principe. On verra ça un petit peu plus tard si on a un petit peu le temps. Et donc chaque arme, donc je reviens aux armes, chaque arme va se transformer en fonction des époques. C'est-à-dire que le style épée en préhistoire, ça va pas être évidemment une épée, ça va être un fémur. Donc c'est très drôle d'attaquer les adversaires avec un fémur, quoi, à la préhistorique. Et chaque arme peut être elle aussi upgradée. Donc plus on va utiliser une arme, plus elle va prendre d'XP, on va dire, et puis elle va avoir l'avantage à chaque fois de pouvoir avoir une barre en plus pour pouvoir concentrer son arme. Donc on a la possibilité de taper de manière simple et rapide, mais on a aussi la possibilité de pouvoir concentrer l'arme plus ou moins en fonction de comment on l'a fait évoluer. Et évidemment, quand on va relâcher et qu'on va attaquer après avoir s'être concentré, on va faire plus de dégâts. Mais en même temps, on prend des risques parce que on se concentre, on peut plus taper. Enfin, on peut taper, mais on relâche la concentration. Donc, il faut savoir doser. Et la deuxième façon, c'est en utilisant de l'alchimie. Donc cette fois-ci, on n'est plus dans de la magie, on est dans de l'alchimie qui va pouvoir, on va pouvoir attaquer, ensorceler, se soigner, etc. Et l'alchimie, c'est pareil, plus on va l'utiliser, plus elle va être upgradée et être puissante. Et après, j'expliquerai un petit peu plus ce qu'il y a autour de l'alchimie. On va peut-être lancer la musique, comme ça coupe en plein milieu des explications.
D'accord. D'accord, ben écoute, on va s'écouter la musique Dog Maze. Alors je sais plus à quel moment elle intervient dans le jeu.
Je ne sais plus non plus.
Et puis après, ben, on vous expliquera tout ça, quoi. Restez avec nous.
Try again.
Alors j'espère que ces petites musiques calmes vous apaisent chez vous par un beau soir. Comme
c'est
ça.
Une émission zen ce
c'est
soir.
C'est une émission zen, mais en fait ça reflète vraiment l'ambiance qu'il y a dans le jeu. Parce que là, les musiques, il y a des musiques qui sont là pour dynamiser un jeu de tir. Mais là, la musique, elle est vraiment... Elle se rattache vraiment à l'endroit que l'on va visiter. Donc comme ça, écouter seul, c'est très calme et très zen. Mais c'est vrai que quand on le joue, ça nous met une ambiance. Ça peut nous mettre une ambiance glauque. Ça peut nous. Des fois, il y a des bruits d'eau quand on est près des rivières. Le travail de Jérémy Soul au niveau des musiques dans ce jeu, elles sont vraiment. C'est vraiment un travail incroyable quand on le joue et qu'on a la musique en même temps.
Surtout que la musique là, je me suis souvenu, c'est dans le château d'Ivory quand
voilà,
tu
vois
le chien
dans mes conduits. Ouais. Puis même la musique de départ, elle nous met tout de suite dans l'ambiance un peu
glauque. Ça
donne le ton.
C'est un jeu sérieux.
Voilà. Sérieux,
non,
je suis pas d'accord parce qu'on verra tout à l'heure, il y a des passages plus cocasses. Puis il y a des musiques quand même aussi un peu plus dynamisantes à certains moments.
Celle des boss.
Je reviens donc à mon alchimie. Donc dans ce jeu, on va faire, le héros n'est pas magicien, le héros va faire de l'alchimie. Qui dit alchimie dit recette et dit ingrédients. Ça veut dire que pour pouvoir faire de l'alchimie, il faut déjà trouver les recettes, savoir quels ingrédients utiliser. Les recettes, on va les trouver en rencontrant des gens, en faisant certaines choses dans les mondes, en fouillant à certains endroits dans les mondes. Et puis une fois qu'on a la recette, une recette sans ingrédients, ça peut pas fonctionner. Donc il faut avoir les ingrédients en bonne quantité et les bons ingrédients pour faire ces recettes. Donc des fois on se retrouve avec une recette mais on trouve pas les ingrédients, des fois on trouve des ingrédients mais on n'a pas la recette. Donc là il y a déjà une petite difficulté à prendre en compte. Et donc c'est ce que je disais tout à l'heure, les recettes, enfin les alchimies, c'est comme le héros et comme les armes, plus on va les utiliser, plus elles vont monter en grade et plus elles vont être puissantes. Dans le jeu, il y a les ingrédients, mais il y a aussi ce qu'ils appellent les chapelets. Donc, pour moi, il me semblait que les chapelets c'était en quantité limitée, mais Martin va prendre la parole tout à l'heure. Mais c'est donc une chose qui permet de remplacer certains ingrédients manquants pour faire des alchimies qu'on ne pourrait pas faire. Me disais qu'il y avait une petite astuce.
Ouais. Alors les chapelets, en fait, tu peux, à la fin du jeu, t'as une alchimie pour les créer toi-même, mais il y a encore une autre astuce dans le jeu. Une fois que tu as le premier coucou, où tu peux voler en fait sur la carte de j'ai oublié le nom maintenant du monde, Perpétua, voilà. Tu peux retourner au marché de Noblia. Et au marché de Noblia, il y a un endroit qui s'appelle l'Agora. Et au-dessus de l'Agora, tu peux rentrer dans le château. Et en fait, quand tu vas au-dessus de l'Agora, t'as un endroit où t'as deux fois trois statues avec des sortes de grands dinosaures verts.
Tout à fait.
Auxquels on peut parler.
D'ailleurs, on se demande ce qu'ils font là, puisqu'on est dans le monde de l'Antiquité, mais c'est des dinosaures.
Ouais. Et en fait, si on va dans le mur qui est à droite, au-dessus du troisième dinosaure à droite, je sais pas si vous suivez le truc, en fait, il y a trois dinosaures les uns au-dessus des autres.
Nous qui avons fait le jeu, oui, mais.
Voilà. Et en fait, tu vas contre le mur, t'appuies avec le bouton d'action, le bouton B, et ben, t'auras un chapelet gratuit. Et tu peux le faire autant de fois que tu veux pour arriver à 99. Et ça va bloquer à 99.
Voilà.
Cool.
Alors que normalement, le chapelet est censé être rare quand même, plus ou moins rare quand même, puisqu'il remplace
là,
pas mal d'ingrédients.
Si t'arrives là dans le jeu, c'est que t'as déjà fait facilement les trois quarts, voire les quatre cinquièmes du jeu. Donc,
Ouais, mais quand même, il y a encore des magies, des alchimies qui vont arriver par la suite, qui peuvent être
plus beaucoup,
qui peuvent être utiles. Quand
Je sais plus quand tu débloques l'alchimie pour faire les chapelets. Je sais pas.
Et les chapelets, c'est après. En fait pour une invocation pour les personnages principaux du jeu pour qu'ils viennent t'aider.
C'est pour par exemple pour Regard de Brest, pour Alain Corbusier, pour Anémone et pour le docteur Rouflaquette, tu peux faire appel à leur magie spécifique.
Voilà, c'est ça.
Ce sont pas des alchimies que toi tu auras, mais eux les auront.
Mmh.
Et d'ailleurs, il y a même des alchimies cachées comme ça pour Alec. Il y en a deux.
D'ailleurs, elles sont très puissantes dès le début.
Si, c'est résurrection et aura, tu les gagnes dans des pots en fait.
Je me rappelais plus.
Tu peux les trouver.
Évidemment, il y a une originalité dans ce jeu, pour ma part. C'est pour ça qu'Elie en a parlé tout à l'heure. C'est le chien qui nous suit et qui va nous aider à avancer dans le monde. Alors déjà, il y a quelque chose de très drôle et que j'ai adoré. C'est que le chien, en traversant les époques, il va subir des transformations. Donc par exemple, à la préhistoire, quand notre héros... Alors notre héros n'a pas de nom, hein, puisqu'on peut le nommer comme on veut. C'est pour ça que je dis notre héros.
Tout comme le chien.
tout comme le chien.
Mon chien s'appelle
familier.
C'est
pas Martin.
Je vous dirai qu'après comment s'appelle mon chien.
Donc quand on arrive à la préhistoire, bah au début le jeune garçon il reconnaît pas son animal parce que c'est une espèce de loup sauvage cro-magnon un peu préhistorique. Donc il met quelques secondes avant de comprendre que c'est son animal de compagnie jusqu'à ce qu'il lui lance justement un fémur que le chien lui ramène.
Non, il lance pas le fémur, il lance un bâton.
C'est un bâton.
Le chien ramène un os et c'est là où il prend l'os.
Et c'est là où il prend l'os pour avoir l'arme. Et donc quand on va passer à l'Antiquité, il va devenir ça va être un lévrier, pendant le Moyen Âge, ça va être un caniche. Et puis c'est pour ça que Martin tout à l'heure n'avait pas tout à fait tort quand Ellie disait qu'on a un animal à poil. Bah non, pas toujours, parce que justement dans le quatrième monde donc du professeur Rouflaket, on est dans une espèce de monde futuriste et donc le chien n'est plus un chien, c'est un robot toaster qui peut nous toaster d'ailleurs hein, du pain de mie. Et puis il est muni d'un rayon laser assez dévastateur pour nous aider.
Et j'aimerais aussi rebondir sur ce qu'elle disait avant, comme j'étais sérieux, moi je dis pas du tout, j'ai noté la phrase en fait que dit le héros quand il se rend compte que son chien est devenu un grippin. Donc petite citation du jeu in-game. Donc d'abord le nom du chien, moi j'appelais mon chien le chien qui jute. Donc il fait le chien qui jute, que se passe-t-il encore? Tu es si métallique comme Toastzilla dans l'attaque du grippin, au moins nous serons prêts si des baguettes et du pain de mie nous attaquent.
Ouais. Et Toastzilla, c'est pas de ça qui sort du cinéma au début, parce que je crois qu'on voit le nom du film,
c'est pas celui-là le film, il y a différents. Il fait plein de références cinématographiques, même un film
tout
avec
Ouais, Malo.
Mais il modifie à chaque fois un petit détail, et c'est pas Godzilla et tout.
Bah oui,
c'est pour ça que tout à l'heure, quand tu disais que c'était un jeu sérieux, ben non, parce qu'il y a plein de petites références, et même dans les actions qu'on va faire, on en parlera sûrement tout à l'heure, il y a plein de petites choses humoristiques. Et donc ce chien, c'est pas juste un animal qui nous suit, il va pouvoir, évidemment, donc je l'ai dit, il va pouvoir attaquer. Donc nous aider à se défaire, à en découdre avec les ennemis. Il va pouvoir flairer et il va aussi pouvoir, évidemment,
on
puisque c'est un chien, on ne sent pas le cul. Et comme c'est un chien, personne ne fait trop attention à lui. Souvent, on va pouvoir voir grâce à lui des cinématiques et apprendre des choses puisqu'il peut écouter les conversations et découvrir certains secrets puisque les gens parlent très librement à côté de lui. Entre la possibilité de flairer et d'attaquer, on a une option justement dans le menu. On peut plus ou moins régler ses personnages en fonction de ça. Donc le chien, on va pouvoir plus le mettre dans le rôle de flairer, mais on va aussi pouvoir plus le mettre dans le rôle d'attaquant. Donc on peut jauger déjà ce qu'on veut demander à son chien.
Sachant que le chien, s'il y a des ennemis à l'écran, il va pas flairer.
Normalement non.
Mais, une fois que
mais on peut lui demander d'ailleurs
voilà,
de flairer.
Mais une fois que les ennemis seront morts, il va flairer automatiquement s'il y a quelque chose à proximité. D'ailleurs, il faut qu'il y ait des feintes.
Donc, et flairer, j'ai oublié de le dire, flairer, ça va évidemment servir à indiquer une zone de danger ou évidemment à trouver des objets cachés, des ingrédients, etc. Donc le chien, il est quand même assez utile.
Ouais.
Peut-être qu'il flaire alors les chapelets
Il flaire plein de choses.
Parce que moi, j'ai pas trouvé cette zone avec les chapelets.
Il flaire les coffres, il flaire les ingrédients par terre, il flaire tout ce que tu peux ramasser.
Donc il est vraiment très, très utile.
Par contre, moi, je voulais dire, quand il flaire un objet, il s'arrête à un endroit précis et on va essayer de prendre l'objet en appuyant sur B. Et souvent, on a du mal parce que c'est pas totalement précis.
Moi, j'ai pas eu ce souci.
Il s'arrête pas sur l'endroit même. C'est un petit peu autour.
Ouais, c'est une zone.
Il y a des fois où j'ai vraiment cherché partout et j'ai abandonné parce que j'ai pas trouvé.
Mais peut-être qu'il y avait rien. Des fois, il me semble qu'il flaire aussi du rien.
S'il te fait une feinte, après, il se gratte la patte
à
l'oreille.
Il se gratte. Voilà, tout à fait.
Mais c'est rare qu'il se fasse une feinte.
S'il s'arrête. Parce que des fois, tu
flaires, voilà, c'est pas une feinte.
Des fois, tu vas le suivre assez longtemps en disant, il a l'air de flairer quelque chose. Et puis finalement, il va s'arrêter, donc tu penses qu'il y a quelque chose, mais non, parce que comme dit Martin, il se gratte et puis finalement il abandonne quoi. Et puis on peut faire aussi le même réglage, alors moi j'ai pas trop senti la différence, mais on peut faire le même réglage avec le personnage.
Ouais.
Donc on peut le mettre plus vers l'offensif ou plus vers le défensif. Vers l'attaque, non. L'offense, la défense.
Voilà. Ça c'est utile en fait si maintenant tu joues le chien, parce que le chien est plus puissant que le garçon et qu'en fait tu veux pas qu'il se fasse taper.
Voilà,
notamment
c'est ça.
Sur la fin du jeu,
si t'es avec le chien, puisque je l'ai pas dit, mais évidemment, on a l'option à un moment donné, on peut changer de personnage. On peut contrôler, le chien peut se contrôler tout seul par l'ordinateur, mais on peut aussi décider de contrôler le chien. Et ça va d'ailleurs être très utile dans certaines phases de jeu où les deux personnages vont être séparés, où le premier personnage doit, appuyer sur quelque chose, et le chien aussi dans sa zone. Donc on va pouvoir se séparer, et à ce moment-là, défensif et offensif, je pense que ça sert à ce moment-là du jeu.
Ouais. Ça sert surtout sur la toute fin du jeu, on va dire, ou à d'autres périodes où vraiment le chien est plus fort que le garçon, et le garçon, t'as intérêt à le laisser derrière et à prendre le chien pour taper, ou à laisser le chien taper et toi contre le garçon pour qu'il évite les coups.
Alors que moi, j'ai jamais joué comme ça, tu vois, c'est marrant. Hein. J'ai jamais eu l'idée, une fois que les deux personnages se retrouvent, je suis toujours partie avec le gars, et j'ai laissé faire le chien qui, quand il est en mode attaque, il est vraiment nickel, quoi.
Bah, il est bourrin.
Voilà, il est très bourrin. Donc j'ai jamais eu l'idée, tu vois, de laisser le garçon et de prendre le chien à la place.
Moi, ce que je fais, je prends souvent le chien parce qu'il court plus vite. Alors quand tu veux juste esquiver les ennemis pour avancer, tu prends le chien.
Mais le garçon aussi, tu peux le faire courir.
Mais moins vite.
Ah oui, c'est un humain, mais je sais pas si
ça joue.
Sur
ça
des
joue.
Courtes zones, sur des courtes distances, je suis pas sûre que ça joue énormément.
T'as moins de chance de te faire frapper.
Ouais.
Après, on va dire ça dépend comme ça. Parce qu'ils ont chacun leurs compétences, mais bon.
Enfin bon, et donc cette originalité là, moi je l'ai trouvé super parce que évidemment, bon, Lionel en reparlera un petit peu de ces jeux, je crois. Ah non, tu nous parles de quoi tout à l'heure ?
Voyage temporel.
Voyage temporel. Mais c'est vrai qu'il y a plein de jeux qui a repris le même principe où on a deux personnages qui vont des fois être ensemble et s'aider, des fois être séparés, faire chacun un truc de leur côté. Et puis le chien, il est marrant, il vit des choses très drôles. Par exemple, au Moyen-Âge, il va comme il est rose. Ah oui, j'ai oublié de dire. Donc c'est un caniche. Au Moyen-Âge, mais un caniche un peu ridicule, il est tout rose, tout pomponné, etc. Et donc il ressemble, avec un masque sur la tête, on peut le faire passer pour un cochon. Et donc il va participer à une course de cochons qu'il va d'ailleurs remporter avec grand succès, etc. Donc c'est assez marrant, les phases du chien, je trouve.
D'ailleurs, cette phase-là, d'abord tu vas avec le garçon au freak show pour visiter une sorte de musée des horreurs ou des trucs comme ça. Et là, à la fin, ben, c'est que des charlatans, tu vois bien que c'est du pipeau. Tu vois en dernier le chien avec justement ce masque de cochon qui directement après lance la scène, la cinématique sur la course de cochon qui gagne pour lancer la suite du jeu.
Donc voilà, donc ça c'est pour parler du jeu lui-même et pourquoi il nous plaît et pourquoi c'est un jeu auquel il faut jouer. Je voulais rajouter que Secret of Evermore, il a longtemps été considéré par les Américains et par les Européens comme un jeu de remplacement, une potentielle suite, même s'il n'en est pas une, de Secret of Mana 2, Seiken Densetsu 3.
Non.
Il y a un
Seiken Densetsu 2 qui égale Secret of Mana.
Voilà, c'est ça. Et donc, ils l'ont considéré comme un Secret of Mana 2 bis.
Comme une suite spirituelle.
Voilà, comme une suite spirituelle. Alors, on retrouve, comme on l'a dit tout à l'heure, des choses qui pourraient nous faire dire que oui, c'est une suite spirituelle, déjà rien que dans le nom. Le menu, l'effet science-fiction qui remplace un peu la fantasy, mais même si on fait plutôt de la chimie que de la magie, ça reste quand même un principe qui est un petit peu identique. Après, c'est vrai que on joue pas à deux, malgré le fait qu'on ait deux personnages et que ces deux personnages peuvent être dissociés. Bah, une des grosses différences, c'est que malheureusement dans Secret of Evermore, dans la version SNES, on ne joue qu'à un joueur.
Jouer à deux, faut prendre une version craquée.
Voilà, c'est ça, c'est ce qu'on en avait dit lors de Secret of Evermore.
Secret of Mana,
décidément, j'ai du mal. Hein.
C'est pas grave.
Entre les deux, mon cœur balance. Et donc, donc effectivement, il y a des choses qui nous y font penser. D'un autre côté, donc malgré ce gameplay identique, ces petites choses identiques, il y a aussi pas mal de différences. Et une des différences, c'est quand même aussi la difficulté, quand même, qui est, je trouve, quand même un cran au-dessus.
Ah, moi je dirais pas que ça. Moi je la trouve, elle est un peu plus dure parce que les boss sont plus costauds et qu'en fait, comme t'as la magie, mais l'alchimie, c'est pas pareil à gérer. D'ailleurs, j'ai refait le jeu récemment et j'aimerais expliquer quelques petits points par rapport à l'alchimie et au niveau d'armes pour comparer bien les deux jeux, parce que souvent il y a des confusions qui sont faites. Dans Secret of Mana, quand tu tues des ennemis, tu peux monter tes niveaux d'armes et c'est pas fixe. Dans Secret of Evermore, dès lors que tu tues un ennemi fait monter de 1 centième ton niveau d'armes. D'accord. Et les niveaux d'armes ne vont que jusqu'à 3. Dans Mana, jusqu'à 9. Donc en fait, tes armes, tu pourras les monter de niveau 0 au niveau 3. Ok.
Ouais. Mmh.
Là, après, tu vois, ça
c'est déjà une belle différence.
Là,
ouais.
Je préfère Secret of Evermore pour le coup. Par contre, pour l'alchimie, ben dans Evermore, quand t'es au niveau 0, tu vas le dire une fois, ça montait de 10 dixièmes, et au niveau 1, ça montait de 5 dixièmes, puis après 4 dixièmes.
10 dixièmes, 1 dixième peut-être, non ?
Ben non, 1 dixième. 1 dixième. 10 centièmes, pardon, je pensais en centièmes. Alors que dans Mana, c'est 9 centièmes, puis 8 centièmes, et ainsi de suite. Dans Mana, ça va de 9 jusqu'à 1, mais à chaque fois, c'est graduel. Dans Evermore, ça va faire 10, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1. En gros, pour monter une magie au niveau maximum en Evermore, tu mets mais 10 fois plus de temps que dans Mana.
Ouais.
Et ça,
après, t'en as pas forcément besoin pour finir le jeu. Hein. C'est ce qu'on disait avec Ellie. Ouais. On n'a pas besoin de tout pousser à bloc pour réussir à finir le jeu. Il n'est pas non plus difficile à ce point-là.
Pourtant, pour qu'elle soit effective, tes magies, toutes celles de soins, t'as intérêt à les utiliser. Enfin, celles de soins, c'est que tu
celles souvent, de soins, en fait. Oui, tu vas de toute façon l'upgrader.
Celles de soins, moi, en m'en servant juste comme ça dans le jeu, je l'ai montée au niveau 5 à la fin, elle était.
Moi, j'ai pas regardé, mais.
Alors qu'en fait, tu vois, j'aurais pu la monter en théorie jusqu'au niveau 9,98. Enfin, ça, c'est ce que j'aurais moi fait dans Secret of Mana. Donc, tu vois, là, j'ai une préférence pour Mana de ce côté-là.
Ouais, tout à fait.
Ouais, disons qu'après, faire de l'alchimie pour faire de l'alchimie, c'est long et inutile.
C'est long, et le problème, c'est qu'il y a 33 alchimies, il y a 33 formules différentes. Oui. Mmh. Alors qu'en fait, dans Mana, tu montais par des groupes, alors que là, c'est juste une magie, une alchimie. Donc, ce qui aurait été plus intelligent, à mon sens, ça aurait été qu'ils regroupent les alchimies par type, genre les alchimies curatives, les alchimies d'attaque, les alchimies autres.
Mais quand tu fais une alchimie, est-ce que ça utilise les ingrédients?
Oui. Bien sûr.
Donc,
bien sûr,
faut les reprendre à chaque fois,
plus.
Les récupérer à chaque
fois. Ouais, faut les récupérer.
Non seulement faut les récupérer, mais faut te faire des réserves aussi, parce que tu vas pas les récupérer forcément quand tu vas en avoir besoin. Donc ça, c'est aussi une difficulté que je voulais rajouter. C'est évidemment la recherche de ces ingrédients. Et pour certaines formules, il y a des ingrédients qui sont pas faciles à avoir. Des fois dans le jeu, on a aussi besoin forcément de l'alchimie. Par exemple, l'évitation au début du jeu. Il va absolument la falloir. Et donc, il y a toute une histoire qui va nous entraîner à trouver l'ingrédient qu'il faut, c'est-à-dire le poivron. Donc, ça, c'est aussi, les ingrédients font partie pleine du jeu.
Ouais, mais ça, c'est seulement du jeu où ça arrive. Et tu vois, justement, l'évitation, c'est pour moi une magie autre, enfin, une alchimie autre. Et je pense vraiment qu'ils auraient dû dissocier en trois avec des niveaux communs d'alchimie. Parce que moi, c'est ça le gros défaut du jeu, c'est qu'à la fin, tu peux même pas avoir tout monté à bloc. Surtout, comme tu le disais, il y a des ingrédients, ben, ils sont rares. Tu peux même pas les acheter. Ils sont limités.
Il y a des ingrédients très rares, donc tu sais déjà que les magies,
si tu veux monter tes magies, si maintenant tu veux la rendre plus puissante, il faudrait les monter au niveau je sais pas combien et t'en servir des centaines et des centaines de
tout
fois.
Tout à fait.
600 fois quasiment.
Oui. Tout à fait.
Donc, c'est un peu barbare quand même.
Après, c'est pas quoi. Indispensable pour faire le jeu et le finir.
Pour se régénérer, il faut quoi ? Une racine et de l'eau, c'est ça ?
Ouais.
Et on peut stocker jusqu'à 99
de chacun.
Voilà.
Et après, t'as une seconde
99 ingrédients.
Après, t'as aussi une seconde alchimie curative qui, elle, s'appelle la cure miracle. Je crois que c'est la cure miracle. Non, c'est pas la cure miracle, pardon,
je peux plus t'aider, je m'en rappelle plus.
C'est super guérison. Et super guérison, en fait, tu l'obtiens chez Lotto, qui est un personnage qui vit dans le château de Ebony. Et en fait, ce personnage, quand tu vas le voir, il va te parler, il va te demander à quel chiffre lui il pense. T'as deux choix possibles. Si tu te foires de choix, tu as perdu la magie, tu ne l'auras pas. Tu trouves le bon choix, tu gagnes la magie. Ouais. Un seul essai.
Oula,
t'as intérêt à sauvegarder avant.
Ouais, c'est
exactement.
Clair.
Et donc, en fait, ça aussi, dans Evermore, il y a des alchimies cachées qui sont très bien cachées, genre Shrapnel ou Dar ou celle-là.
Dar, oui, très bien caché. Oui.
Et voilà, et donc moi, je trouve ça bien. D'un autre côté, j'ai préféré avoir le côté groupement de magie qui évolue comme dans Mana.
Mmh. Ouais. Et puis on parlait de la magie de soin. Évidemment, le chien attaque, il peut se faire attaquer aussi. Donc la magie de soin, on va très 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 souvent l'utiliser. Elle va être très utile, puisque non seulement on doit se régénérer soi-même, mais on doit aussi régénérer son chien. Hein. Donc ça, faut pas l'oublier non plus, le pauvre chien.
Sachant que le game over arrivera uniquement si le garçon meurt.
Si le héros meurt, voilà.
Le chien est juste fatigué, il peut pas mourir.
Après, il y a des astuces pour trouver les ingrédients, n'est-ce pas, Martin? Pour trouver, par exemple, 50 riz, 50 épices.
Ah, ça, c'est pas des ingrédients, ça, c'est carrément des non, pas des charmes.
Des objets.
Des monnaies d'échange.
Des objets, voilà, des monnaies d'échange, exactement.
Ouais, dans le désert.
Parce qu'on peut faire du troc.
Il faut faire du troc au marché de l'oubliade. Le marché de l'oubliade, pour moi, c'est un passage incontournable du jeu, en fait. Parce qu'il y a plein de trucs à faire et c'est énorme. D'ailleurs, au marché de l'oubliade, je peux me permettre ?
Oui, mais vas-y, mais justement, la minute 30, là, elle est pour les petites astuces. Donc,
Alors, non, là, en fait, moi, j'aimerais vous donner un dialogue marquant d'un garde à l'agora au marché de l'oubliade. Ça m'a fait vraiment hurler de rire quand j'ai revu ça dans le jeu, vu que j'ai refait le jeu récemment. Et donc, ce garde, il nous dit très sérieusement. Veuillez respecter les règles de l'agora. Pas de natation, pas de gros mots, pas de rigolade, pas de pleurnicherie, pas de promiscuité, pas de polka, pas de mazurka, pas d'escrime, pas de scoubidou, pas de corde à sauter, pas de cas de conscience, pas de circonstances atténuantes, pas de promenade en char, pas de poisson le vendredi, pas de glace à la pistache, pas de musculation, pas de mini-jupe, et surtout, pas pas d'aboiement de clébard.
On rencontre des personnages qui ont des discours qui des fois sont casse-tout, hein. Enfin, c'est vraiment excellent quoi, les voilà. Discours de certains personnages.
Alors pour revenir encore au marché inoublié, petites astuces, au marché inoublié on peut mettre le chien sur un toit, c'est facile. Et puis aussi une sorte de 10 heures de bonne aventure qui est là à l'entrée du marché en vert, un gros bonhomme en vert avec une
tout
barbe
tout de suite
blanche.
À l'entrée, et, avec lui, une petite dame en face de lui.
Et lui si on insiste en lui parlant, il va vous dire mais en fait vous êtes dans un jeu vidéo, vous êtes fou quoi. Bon j'ai pas noté tous les dialogues mais en gros c'est ça.
Non.
Et au final on peut le transformer soit en poulet, soit en panier, soit en
parce qu'il
en
dit que si je mens que le ciel me tombe sur la tête ou un truc du style, et donc le ciel lui tombe sur la tête alors qu'il a raison, nous sommes dans un jeu vidéo.
Et si on le transforme pas, quand à ce moment là on fait Y pour sortir du menu pour pas valider, et ben il peut nous offrir de l'équipement ou de l'argent, donc c'est très intéressant. Il y a plein de charmes comme ça qu'on peut aussi
plein
avoir
de petites
choses.
Astuces
alors, les gens qui sont intéressés pour avoir toutes les charmes, toutes les alchimies, moi je les ai et je peux leur fournir sur le forum. En attendant on va s'écouter une petite musique, c'est le thème des pirates quand on est à Antica.
N57, un maximum de musique,
un maximum de musique.
N57 Radio,
Hits and Move.
Hits and Move.
Rapide de musique, on n'était pas prêt là.
Ouais, mais ça va trop vite. Le temps pour moi de vous dire que vous pouvez nous retrouver sur le forum www.forumtryagain.com avec cette semaine le podcast de Turtle in Time. Ça, je l'ai déjà dit au début d'émission. Qu'on est logiquement sur le chat comme un peu tout le temps. Qu'on est sur les pages Facebook aussi si vous voulez nous retrouver. Que vous pouvez nous envoyer des questions pour les émissions suivantes. Bien que, à mon avis, là c'est peut-être un peu tard. Enfin, ça, je sais pas. Je crois qu'on aura déjà quasiment tout enregistré ou presque. Non, si, il y a peut-être la fin. On aura besoin de questions encore. Et le temps pour moi de donner la parole à Lionel.
Voilà, donc moi déjà avant d'entamer mon petit sujet, je voulais poser quelques questions, donc enfin plutôt retranscrire quelques questions de SFL Hunter qui demande pourquoi une suite n'a pas été envisagée alors que pour une fois nous avions un jeu assez novateur et surtout vu la fin du jeu.
Voilà, donc moi je vais pas spoiler la fin, mais effectivement la fin laisse présager une suite et c'est malheureux qu'on ne l'ait pas eu. Maintenant pourquoi on l'a pas eu? Je ne sais pas. T'as une idée, Martin ?
J'ai un tout petit élément de réponse, mais vraiment petit. C'est que le jeu a été fait par Squaresoft États-Unis, pas Squaresoft Japon. Et qu'à l'époque, Squaresoft était en bisbille avec Nintendo. Parce qu'il y avait les développements de Final Fantasy VII. Ouais. Et vu que le jeu est sorti vraiment très tard sur la machine et qu'en fait, Squaresoft fait ça, ils n'ont pas fait beaucoup de jeux. Et ben, je pense pas qu'ils aient eu envie de mettre des ronds dedans, quoi.
Ouais. Enfin, moi, je désespère pas. Vu la fin, c'est vrai que ce serait bien.
À la fin, c'est plus une fin blague. Faut pas le prendre comme une fin
blague. C'est une fin blague, mais d'un autre côté. Bon.
Ouais, là, ça laisse ouvert, mais je crois qu'en fait, on l'aura jamais à cause de ça.
C'est vrai que t'as raison, la fin, elle est très. Ça reflète bien tout le côté humoristique aussi qu'il y a dans le jeu, malgré le côté sombre et sérieux, etc. C'est vrai que ça fait un beau résumé de l'ambiance du jeu.
Ouais.
Voilà, on va pas en dire plus parce que.
Bon, une autre question de Moshi. Alors, la question, elle est toute bête, mais pourquoi le jeu s'appelle Secret of Evermore alors qu'on est dans le monde de Perpétua ?
Eh oui, on est dans le monde de Perpétua et ça s'appelle Secret of Evermore. Eh bien, tout simplement parce que ça n'a pas été traduit de la version US. Et dans la version US, on se balade dans Evermore, tout simplement. Oui. Alors qu'ils ont traduit Ponduck en pontoise, ils n'ont pas traduit le.
Je ne sais pas si c'est vraiment une traduction.
C'est marrant parce que. Ouais,
oui,
en fait,
ils l'ont changé.
C'est plus ou moins une traduction parce que Evermore, ça veut dire toujours plus. Mm-hmm. Et Perpétua, bon, c'est perpétuel.
Oui, c'est perpétuel, donc ils auraient pu le remplacer, mais non, ça n'a pas été fait.
Bon, ok. Bon, bah voilà, donc, ouais, bizarre. Bref, bon, maintenant je vais vous aborder mon sujet sur le voyage temporel. Parce que ce soit dans la littérature, avec des références du genre telles que La machine à explorer le temps de H.G. Wells, ou au cinéma avec des films cultes tels que Retour vers le futur ou Terminator, en passant par le petit écran avec des séries cultes comme le Docteur Who, qui dure maintenant depuis des années, le voyage dans le temps a toujours passionné l'humanité. Et bien évidemment, le jeu vidéo est loin d'être épargné par le phénomène. Donc, dans les exemples de jeux qui m'ont marqué par leur gestion assez aboutie, on retrouve le mythique Chrono Trigger.
Excellent.
Effectivement. Ouais. Ouais.
Alors, un RPG au scénario complexe, disposant de fins multiples, qui place en fait le voyage temporel au cœur même du scénario et du gameplay. On notera par exemple qu'il est possible d'ouvrir un coffre dans le futur, revenir dans le présent, rouvrir le même coffre, puis repartir dans le passé. Renouveler l'opération en récupérant des équipements différents en fait à chaque époque. Mmh. Alors que si on est cloche comme moi, on ouvre le coffre dans le passé et après il n'y a plus rien dans le jeu.
C'est logique.
Donc et ça, voilà, ça nous privera quand même clairement du contenu du coffre dans le futur. Donc d'autres jeux utilisent le voyage dans le temps, parfois même avec humour, comme dans le jeu Time Splitter, où vous croiserez régulièrement votre moi futur, vous avertissant d'un danger à venir. Puis, généralement peu de temps après, vous recroisez votre moi passé à qui vous annoncerez ce même danger auquel vous venez de faire face, quoi.
Ça me fait penser à un truc court, ça n'a rien à voir avec les jeux vidéo, ça me fait penser à Emmett Turmoser quand Barney il veut draguer en se faisant passer pour son soi du futur, un petit vieux qui dit « Il faut que tu couches avec Barney, sinon la planète va être réduite en cendres, couche avec Barney », puis il revient quelques secondes plus tard en jeune et ça marche. C'est con, ça me fait penser à ça, ça n'a rien à voir, mais...
Pas grave.
Allez,
ouais,
filles.
Bonne anecdote.
Anecdote, j'en avais pas faite.
Donc voilà, et du coup... Tout l'intérêt du voyage temporel est de pouvoir jouer sur les répercussions en fait de vos actions dans le passé sur les époques à venir. Donc dans un jeu comme Ocarina of Time par exemple, planter une graine dans le passé vous donnera une plante permettant d'accéder à certaines zones inaccessibles.
Donc,
pour rester dans la série des Zelda, dans Majora's Mask, Link est obligé de revivre un certain nombre de fois les trois mêmes journées, donc il se passera toujours les mêmes événements au même moment.
C'est le jour de la marmotte.
Et en fait, vous pouvez intervenir à certains endroits, et selon les endroits où vous êtes et les actions que vous faites, bah, ça aura pas les mêmes répercussions sur la suite, sur ce qui va se passer sur les jours suivants, et donc c'est comme ça que vous pourrez avancer et faire.
C'était super bien pensé, ouais. C'était super bien.
Donc à chaque fois, en fait, que vous êtes renvoyé dans le passé, vous gardez que votre équipement et les notes de journal, quoi. Vous perdez tout le reste. Vos rubis et tout ça, en fait.
Sauf si tu les mets à la banque
où on te met une marque invisible qui permet de retrouver ton compte en banque et donc de cumuler les rubis à la banque. Mais du coup, si vous oubliez d'aller une fois, de remettre votre argent à la banque avant la fin des trois jours, c'est tout perdu.
Baba.
Et voilà. Donc,
astuce inutile, tant qu'on est là, anecdote perso, hein, pour faire de l'argent à Majora's Mask, il faut aller tuer le vautour dans la plaine. Avec l'arc de feu, on s'est beaucoup amusé avec Pru là-dessus. Voilà, c'était l'anecdote perso du jour. Faire l'agence, tu
ça peut facile. Servir.
Ouais. Fait un gros rubis orange qui donne, je crois, 500 ou un truc comme ça.
Tips Magazine.
Bourrin, quoi.
Voilà, donc dans d'autres jeux, tels que Prince of Persia, Les Sables du Temps, votre personnage peut revenir en arrière, quelques secondes en arrière, à l'aide de la dague du temps. Ce qui lui permet, en fait, de se tirer de mauvais pas et d'éviter la mort pour peu qu'on ait récupéré suffisamment de sable du temps, en fait, quoi. Donc vous avez plein de jeux comme ça qui tirent parti du système de voyage dans le temps. On a un autre exemple, par exemple Maniac Mansion The Day of the Tentacle, où les trois héros du jeu se retrouvent en fait chacun à une époque différente. Donc un va aller dans le passé, un reste dans le présent et un autre va dans le futur. Donc c'est un point and click plutôt complexe puisque du fait qu'il est en fait possible de faire passer les objets récupérés dans une période, dans une époque, vous pouvez les faire passer d'une époque à une autre. Alors de différentes manières. On notera par exemple que les plus petits objets peuvent être passés à l'intermédiaire des WC par les WC de la cabine temporelle.
C'est
logique.
Évoqué je crois dans une autre émission, mais je trouve ça vraiment fantastique.
C'est génial.
C'est WC téléporteur quoi.
Mais après vous pouvez aussi, il y a certaines choses qui sont trop grosses ou qui peuvent pas, ou les objets vivants. que vous pouvez par exemple congeler dans le passé. Il y a une histoire d'un hamster et vous les retrouvez du coup congelés dans le futur, et si vous les décongelez vous récupérez l'objet dans le futur quoi.
Ça me fait penser que dans Secret of Evermore, en passant d'une époque à l'autre, on parlait des rubis tout à l'heure, mais on change de monnaie et on change de conversion aussi de monnaie.
Tu peux, ouais, tu peux.
Donc,
les convertir.
Et la conversion.
Les gemmes, les ducats, voilà, c'est quoi les derniers ?
Et les doublons.
Les doublons ?
Non ? Chez les pirates.
Mais
non,
du coup, tu perds la moitié de ton argent.
Et du coup, bah oui, parce que le taux de change n'est pas en ta faveur, a priori. Ouais. Donc.
C'est vrai que t'as pas intérêt à faire de changement d'argent. Mais bref, revenons à Lionel.
Ouais, non, mais il n'y a pas de souci. Hein.
Dans le thème.
Ouais, ça reste dans le thème. Un autre jeu qui est peu connu, dont on avait déjà un peu abordé le sujet, c'est Mario's Time Machine. Donc un jeu éducatif.
Ah oui, je me souviens de celui-là. Oui.
Sorti sur NES et aussi sur SNES, hein, d'après.
Ouais, je l'ai fini, j'ai fait une soluce pour ce jeu.
Et c'est en fait un jeu où vous avez, c'est Mario qui voyage à travers les époques et on va rencontrer des personnages célèbres.
Il faut leur apporter des objets qui sont en concordance.
Voilà.
Il faut répondre à des questions, en fait, il faut remplir un QCM avec les bonnes réponses.
D'accord, ouais, donc en fait c'est vraiment un jeu éducatif où on apprend des choses historiques.
C'est un jeu éducatif et le seul passage fun du jeu, c'est quand tu fais des passages pour aller dans le temps sur une sorte de surf où il faut que tu prennes des champignons, puis après il faut que tu passes dans une sorte de trou noir pour te téléporter.
Tu es en train en gros de nous dire que la culture n'est pas fun, Martin, bravo.
Mario Time Machine, il n'est pas super fun, hein. J'avoue, hein, j'ai fait une soluce, mais il n'est vraiment pas super fun. Hein, mais
il est dans le principe, il est sympa quand même, quoi, je veux dire, c'est original, quoi.
Ouais, c'est original, ouais,
c'est pas du grand jeu. C'est ludo-éducatif, on va dire.
Un autre jeu qu'on a déjà abordé aussi, c'est Teenage Mutant Turtle in Time.
Yeah. Ah ouais.
On aurait presque envie de se réécouter la musique tellement c'était assez clair cette émission, quoi.
Mais Mario Luigi,
Oui, Mario.
Il cède.
Mario et Luigi, les frères du temps.
Les frères du temps.
Donc en fait, vous voyagez dans le temps, dans le passé, et du coup, les deux Mario et Luigi, donc
vieux
retrouve les Mario et Luigi bébés.
C'est donc trop excellent, j'adore.
Et du coup, chacun, je crois, porte le sien sur le dos.
Voilà, ils doivent se protéger, petit.
Voilà.
Il y a Bébé Peach aussi, je crois, à un moment donné, dans une cinématique. On voit tous les personnages bébés, c'est excellent.
À la base, c'est Peach qui veut retourner dans le passé par curiosité, comme pour voir comment dans le passé. Et puis, en fait, il se retrouve un peu confronté à une invasion, je crois, extraterrestre ou quelque chose comme ça, un truc un peu.
Je crois qu'il n'y a pas que qui utilisent la machine et que du coup, ils se mettent eux-mêmes en danger en étant petits, quoi.
Voilà, donc du coup ils doivent se protéger et donc ils ont des interactions possibles avec les personnages, ils peuvent utiliser les bébés pour faire différentes actions. C'est assez
sympa. C'est des familiers dans le temps.
C'est des familiers dans le temps.
C'est ça,
c'est original.
Là tu nous as fait un condensé toutes les missions.
Combo.
Est-ce que t'as noté Blinks, le jeu sur Xbox où t'es une sorte de home shack, tu peux revenir comme dans Prince of Persia, le sable du temps, quelques secondes en arrière pour recommencer ton action si tu l'as pas bien réussi.
Non, mais c'est bien de l'avoir abordé. Moi, je voulais parler d'un autre jeu comme ça aussi, c'est récent, mais qui garde un peu un côté rétro, c'est Braid. Donc Braid, en fait, c'est un jeu qui exploite aussi le retour dans le temps. Et c'est, en fait, vous pouvez faire certaines actions, revenir dans le temps, et ça a un impact. En fait, c'est assez complexe alors à expliquer, mais
Très bon jeu à jouer.
C'est un très bon jeu à jouer. Ouais, franchement, c'est vraiment un jeu sympathique. Il y a plein de bonnes idées. Vraiment un jeu sympa à tester, quoi.
Ok, donc on retient que Braid est un très bon jeu de la scène indé à tester comme ça. Il va être bientôt l'heure de se dire au revoir, les amis. C'est malheureux, mais c'est comme ça, comme toutes les semaines. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler de Banjo-Kazooie, parce que oui, on a déjà dit, oui, on le répète, qu'on est toujours sur le forum où il y a plein de choses, notamment les podcasts. Je l'ai répété beaucoup de fois ce soir, mais j'insiste quand même sur ce point de vue c'est que sur notre forum, et ça, c'est bien. Vous pouvez nous parler des émissions, laisser des questions à venir, voir des petites photos, nous faire des petits coucou. Donc, on aime bien interagir avec vous aussi. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, on va écouter la musique Flying, nous, un thème qu'on vole. Et ciao, les enfants.
Salut à tous,
à la semaine prochaine, jouez bien, bye bye.
M57 Radio.
M57 Radio.
M57 Radio.
Prestart. Génération Prestart.
Game over.